Décryptage, Marie Cazadebé.
En Turquie, Istanbul échappe de peu à l'AKP, mais le parti du président Erdogan a d'ores et déjà introduit des recours pour contester les résultats. Car à la mégalopole turque, il faut ajouter la capitale, Ankara, dans les échecs du parti présidentiel au municipal de dimanche. Deux villes qui étaient aux mains de l'AKP depuis 25 ans et qui basculent dans l'opposition. À Ankara, le nouveau maire s'appelle Mansour Yavaş.
Aujourd'hui est un grand jour, justice est faite, Ankara a gagné, le perdant c'est le candidat de l'AKP.
Pour ces municipales, dernières élections avant la présidentielle de 2023, le président Erdogan avait lancé toutes ses forces dans la bataille, cela n'aura pas suffi. Alors à qui ont profité ces municipales et que disent-elles du poids de l'AKP au pouvoir depuis 2002 et de son président Recep Tayyip Erdogan? Nos invités vont nous éclairer, bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Nora Seni.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique et vous avez dirigé l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Istanbul, nous sommes en ligne avec Essin Ilri. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et sociologue Nora Seni. Deux jours après ces municipales, peut-on vraiment parler de claque électorale pour l'AKP du président Erdogan? Le parti, son parti reste malgré tout la première force politique du pays.
Certainement. On peut parler d'un succès de l'opposition tout à fait symbolique et qui a quand même convaincu les opposants à s'autoriser un tout petit peu d'espoir. Mais sinon, l'AKP a montré que le parti maintient un noyau dur de 48% qui résiste à peu près à tout. Et avec l'alliance qu'ils ont avec l'extrême droite, donc ils ont remporté plus de 50% des voix. Donc, par contre, les villes de l'Ouest sont tombées aux mains donc de l'opposition, Istanbul, Ankara aussi, et ça compte énormément en effet comme symbole et comme ouverture. Voilà, il y a quand même un espoir de faire bouger les choses qui semblaient gelées. La Turquie vit dans une espèce de glaciation depuis quand même quelques années.
Essin Ilri, vous le diriez aussi comme ça, c'est pas une claque, mais juste le signe d'une ouverture politique?
Je pense que c'est un très grand claque. Et aussi, il faut noter qu'en Turquie, j'observe un grand espoir qui va de part avec un désespoir internalisé. Beaucoup ont aujourd'hui l'impression que leur vote ne changera pas grand-chose. Je vais vous rappeler que les élections de juin 2015 ont été annulées et le peuple a dû repasser aux urnes en novembre, où l'AKP a reçu 49% contre 40% qu'il avait reçu en juin. Donc les gens ont peur de devoir répéter les élections. On est passé quand même 7 fois aux urnes dans les 5 dernières années en Turquie.
Ça veut dire que là, finalement, les électeurs sont retournés aux urnes avec un minimum d'espoir que leur bulletin soit comptabilisé et fasse bouger les choses.
C'est ça.
Certainement.
Nora Seni.
Oui, il a été question à un moment de boycotter les élections. C'était une option que heureusement très peu ont gardée. Mais ces élections, elles ont été gagnées par l'opposition. Je veux dire, il y a eu un sursaut parce que il y a eu alliance entre l'AKP, le parti de gouvernement, le parti d'Erdogan et les pro-kurdes, les HDP. C'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui fait que... Là, il y a un grand sacrifice, d'une certaine façon, de la part du HDP, ils n'ont présenté aucun candidat à ces élections dans les villes de l'Ouest.
C'est-à-dire que Istanbul et Ankara,
Pas seulement.
Si on prend déjà ces deux grandes villes, oui. Parce que ce sont vraiment les deux grandes villes symboles, évidemment, de l'avancée de l'opposition, ce sont les deux plus grandes villes du pays, la capitale économique et la capitale administrative, à qui ont profité ces municipales dans ces deux villes?
Ben, c'est à qui on profitait. Je veux dire, c'est le fait que il n'y a pas eu de majorité significative pour l'AKP, c'est dû à cette alliance-là dont je vous parle. Mais cette alliance est une alliance très fragile. Pourquoi est-ce qu'elle est fragile? Parce que le parti, le CHP, le Parti Social-Démocrate, on peut dire peut-être pseudo-social-démocrate, a une veine extrêmement nationaliste et qui ne n'avoue pas et qui ne confesse pas son alliance avec les pro-kurdes. Parce que c'est, je dirais pour aller vite, c'est péché de d'être avec les pro-kurdes. Que Erdogan a convaincu la population que c'était des terroristes, que leur alliance avec le PKK était déterminante, etc., etc. Donc, si le CHP peut s'émanciper de cette appréhension, les choses dans l'avenir, la balance des forces dans l'avenir ira bien mieux.
On va forcément dans cette émission se projeter. Les prochaines élections, eh bien c'est les présidentielles, la présidentielle en 2023. Et Sinyliri, il y a quand même un symbole dans le revers de l'AKP. C'est avant tout Istanbul. C'est une ville assez symbolique pour Tayyip Recep Erdogan dans sa vie personnelle et sa carrière politique.
Tout à fait, tout à fait. Il a été élu maire d'Istanbul, alors sous la partie Refah, qui fait partie de la prospérité, le parti islamiste prédécesseur de l'AKP. Le AKP a été fondé en 2001. Et avant d'être élu comme maire d'Istanbul, il était maire de Beyoğlu, quartier central d'Istanbul.
Et alors pourquoi il aurait dit à son équipe de campagne avant les élections, si nous perdons Istanbul, nous perdons la Turquie, Esin Elgri?
C'était pas juste avant les élections, si je me trompe pas, c'est un discours qu'il a fait il y a une dizaine d'années, en disant celui qui perd Istanbul perd la Turquie et celui qui emporte à Istanbul emporte le pays, parce que Istanbul, c'est un peu, vous savez, en Turquie, on compte à peu près 50% des personnes qui vivent dans 11 métropoles, avec seulement 10% des personnes qui vivent dans les petits villages. Donc Istanbul, c'est le centre de la Turquie et depuis des années. Ce sont les mêmes partis qui emportent à Istanbul et à Ankara. On s'attendait que s'il y avait un changement, ce serait le même changement à Istanbul et à Ankara en faveur de l'opposition.
Noura Sani.
Bah, Istanbul, c'est bien sûr, c'est une grande partie de la production, de l'économie, c'est aussi est à Istanbul. C'est une ville historique, mais c'est aussi une ville qui dit l'identité de la Turquie. Lorsque Istanbul se tourne vers l'Occident, admet son héritage occidental, européen, c'est toute la Turquie qui a cette image-là.
C'est la vitrine.
C'est la vitrine, oui. Et quand c'est le contraire, ce qui est le projet et ce que met en œuvre Erdogan, c'est-à-dire d'en faire une ville, d'islamiser la ville, eh bien, ça devient une autre image. Et ces images-là heurtent les uns les autres, à cause de la polarisation dont la population d'aujourd'hui a hérité, qui est l'œuvre de Erdogan. Il a fabriqué du « nous » et du « eux ». Voilà.
Alors ça, c'est pour les deux plus grandes villes. Vous évoquiez, Noura Sani, tout à l'heure, le HDP, le parti de gauche pro-kurde. Il enregistre aussi une percée dans ses municipales. Est-ce qu'on peut dire ça?
Pas vraiment, si vous voulez. Il enregistre quelque chose d'une moyenne entre 4 et 5%. C'est pas énorme. Mais c'est ce qui est, c'est, dans la mesure où il n'avait pas de candidat, on peut pas dire que, par contre, dans les villes à majorité kurde, il y a eu aussi des villes qui ont basculé. Mais il y a aussi des villes qui ont basculé, sur l'AKP.
Alors, il faut juste rappeler quand même que le parti a repris aussi les principales villes dont les maires avaient été destitués.
Ben oui.
Voilà, après la tentative de coup d'État en juillet 2016, une centaine de villes étaient ainsi administrées par une personnalité nommée par l'État. C'était le cas notamment de Dersim, comme l'explique la candidate HDP, Nursat Yesil.
Quand l'administrateur est arrivé, par exemple, il a modifié le nom de parcs et de lieux publics avec des noms qui n'avaient rien à voir avec l'histoire locale. Le Poa Recep Tayyip Erdogan, le parc des martyrs du 15 juillet, même lorsqu'ils achètent des biens chez les grossistes pour faire des distributions aux habitants, ils les achètent en dehors de la région. Cela ne profite jamais aux commerçants d'ici. Voilà leur vision de la gestion municipale.
C'est donc finalement le candidat communiste qui l'a emporté à Dersim. Recep Tayyip Erdogan, vous le disiez, Nora Seni, a tout de même marqué des points dans des villes du Sud-Est.
Dans les villes, on peut donner l'exemple d'une ville, j'ai des chiffres. Il y a une ville comme Şırnak où en 2014, 232 000 votants ont mis leur voix dans les urnes. Et aujourd'hui, en 2019, 38 000 seulement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La ville a été rasée, la ville a été détruite en 2015 au moment des flambées de violence de sud-est anatolien. Et puis, aujourd'hui, il y a eu que 12 000 membres des forces de sécurité qui ont voté. Donc, la ville est envahie de forces de sécurité, d'envoyés de l'État, et ce n'est que eux qui ont voté.
Donc l'AKP l'emporte dans des villes finalement où le tissu social a énormément évolué. Alors la percée de l'opposition est d'autant plus notable que le système politique mis en place par le président Erdogan l'a rendu quasiment inaudible pendant cette campagne Essine et Rion. On n'entendait quasiment pas les autres candidats que ceux de l'AKP.
Voilà, c'était un peu ça. Mais ça ne choque pas parce que en Turquie, selon les nombres de l'IPI, de l'Institut international de la presse, 99% des médias appartiennent à des groupes qui sont pro-AKP et pro-Erdogan.
Non, c'était impressionnant, effectivement,
c'est très
impressionnant.
Cette campagne. Il y a une inégalité, une inéquité flagrante dans les temps d'antenne, par exemple, dans les temps de... c'est 1-9, je crois. Pour une heure de temps d'antenne de l'opposition, 9 heures de temps d'expression pour l'AKP et surtout pour Recep Tayyip Erdogan. Et puis, je veux dire, il faut en effet compter toute cette l'ensemble des conditions très inéquitables de ces élections. Comme ça vient d'être dit, il y a la liberté de presse. Il y a plus de titres de presse qui soient d'opposition, ceux qui ont survécu sont pro-AKP. Il y a également tous les moyens d'État ont été mis au service des candidats de l'AKP, des candidats de Erdogan. Il a payé de sa personne, il les a accompagnés, il a affiché son image, il a renforcé leur candidature avec son image et il a appuyé ça avec tout ce qu'il pouvait, surtout avec son discours, un discours terriblement, d'une certaine façon, identitaire. Ce n'est plus, du coup, une histoire politique, une histoire économique, mais ça devient une histoire du maintien d'une identité, d'une culture, du maintien d'une cause. Il appelle ça la Dava. Et cette cause, il implique ses électeurs dans cette cause-là. Il leur demande abnégation, il leur demande fidélité. Donc ça change de terrain.
Alors je vais proposer justement d'écouter un tout petit extrait de ce discours et puis on entendra un électeur juste après.
Allez-vous voter pour un parti d'opposition qui est main dans la main avec les groupes terroristes ?
Autre argument souvent utilisé, que la Turquie avait besoin de lui pour la survie de la nation et il n'a pas convaincu cet électeur stambouliote.
De mon point de vue, la Turquie a toujours lutté pour sa survie, contre l'Irak, l'Iran, l'Arménie, Chypre. Nos frontières ont toujours été menacées, rien n'a changé. Alors, où est-il allé chercher ça? C'est maintenant, alors qu'on doit juste élire des maires, qu'ils nous agitent sous le nez la survie de la nation. On nous dit qu'avant Erdogan, il n'y avait rien. Là, on a tout, mais on n'a pas d'argent. Les gens font la queue pendant une heure pour acheter des patates et des tomates pas chères. Notre pays est tombé bien bas.
Et Sinilri à Istanbul, l'électeur qu'on vient d'entendre évoque la cherté de la vie. La situation économique de la Turquie est-elle vraiment, selon vous, la principale explication au recul électoral de l'AKP ?
Je pense que c'est l'un des deux raisons principales, disons, de cette victoire de l'opposition avec 37%. Je pense que la première est la crise, et l'opposition a insisté pendant sa campagne sur le thème de la crise économique. On voit en Turquie un taux de chômage record qui s'établit à 13% de la population active, une inflation au niveau de à peu près 20% sur l'année et un affaiblissement de la monnaie. Et notamment, on voit beaucoup le reflet de ce dernier sur les portefeuilles des Turcs, notamment sur les produits d'alimentation dans la vie quotidienne.
Comment cette crise justement se traduit-elle autour de vous, Essin İleri? On entendait ce monsieur parler du prix des légumes, mais aussi des files d'attente. Comment elle se perçoit au quotidien?
Alors, en effet, ce sont les municipalités AKP qui ont organisé sur les places des grandes villes la vente des légumes à bas prix qui ont été subventionnés par l'État. Mais c'est en faisant les queues, de très longues queues, à mon avis, les personnes se sont senties plus pauvres et se sont senties plus vulnérables.
Nora,
et ça a été, avec les votes kurdes, un des deux effets les plus importants pour...
Nora Seni, alors la place de cette crise économique.
Il est indéniable qu'il y a une crise importante, surtout une crise financière de confiance sur laquelle on peut revenir. Mais je crois qu'on exagère l'impact de l'économie sur les votants de Erdogan. Le brio de Erdogan a été d'associer ces années fastes où l'économie allait fort bien, à une question identitaire, où il a assigné ses électeurs à une identité religieuse, une identité islamique, et il a associé les deux, la prospérité économique et cette identité-là, et aujourd'hui, perdre les élections, ça serait aussi, non seulement que les gens perdent leur assise économique, mais surtout leur identité est en jeu dans ces élections. Il met en jeu quelque chose de beaucoup plus profond chez ses électeurs.
Est-ce que cette ligne, alors, qu'on appelle islamo-conservatrice, a pu être reprise par une partie de l'opposition, justement, pour tenter de tirer des voix?
Il n'aurait pas intérêt à le faire. Ils n'auraient pas intérêt à le faire parce que leur capital est la laïcité, leur universalisme, leur côté séculaire. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux des trois candidats qui ont des deux vainqueurs d'Istanbul et de Ankara avec leur épouse évidemment pas voilée et eux sans moustache. Et il y a une espèce de donc la moustache était le logo l'emblème des partisans de Erdogan. Et donc il y a une espèce de nostalgie de visage, vous voyez comment ça, c'est des espèces de contractions symboliques comme ça, mais ça dit long, ça en dit long, si vous voulez. Et ça, c'est le capital du CHP.
Essin İleri, si on se projette, 2023, ce sera donc la prochaine élection en Turquie, ce sera la présidentielle. Est-ce que vous pensez que le paysage politique qui s'est dessiné au municipal risque encore d'évoluer d'ici là, ou est-ce qu'ils l'ont dit déjà long sur ce que l'on peut attendre des élections nationales?
Premièrement, il y a toujours le danger d'avoir des élections un peu plus tôt. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui disent qu'on aura des élections dans un an ou dans un an et demi et que l'AKP et Erdogan ne voudront pas attendre jusqu'en 2023 pour les élections. Déjà, ça, c'est très important. Et deuxièmement, juste pour répondre à Madame Seni, pas pour répondre, mais pour dire quelque chose de plus, je pense que Erdogan s'est impliqué personnellement dans cette campagne électorale en présentant ces élections comme un problème de survie des cas en Turc. Mais malgré cela, je pense que c'est la facteur économique. Et comme j'ai dit, le vote kurde qui a été des plus importants facteurs. Mais pour 2023, on verra ce qui se passe. Je ne suis pas très optimiste ni désespérée, mais on attend toujours pour ces élections le résultat du Conseil électoral turc, le résultat très serré, avec une différence de 30 000 voix. Donc, je pense qu'il est un peu tôt pour se projeter en 2023.
Quelques mots, Nora Seni, il nous reste une trentaine de secondes.
C'est toute la question, là, où en sera la Turquie dans 5 ans? Et on fait une rencontre, on organise un colloque là, sur ce sujet. où on sera la Turquie dans 5 ans pour projeter. Alors si on considère par exemple l'éducation, eh bien si ça continue dans cette lignée, on aura une islamisation extrêmement forte. Tout l'intérêt d'avoir le CHP un peu plus fort avec sa laïcité.
Merci beaucoup mesdames. Nora Seni en studio avec nous et Sinelri à Istanbul. Tout de suite c'est l'heure d'un nouveau journal.